Le journal, Emmanuel Grabet. Bonjour Emmanuel.
Clé d'étranglement, prise arrière, taser après plusieurs jours de tergiversations et de frontes policières, Christophe Castaner clarifie sa position sur les méthodes de la police. Le ministre de l'Intérieur a envoyé hier soir une lettre de cadrage après des rencontres avec les syndicats. La SNCF et un cheminot renvoyés en correctionnel pour leur responsabilité présumée dans le déraillement d'un train à Brétigny-sur-Orge. Le procès devrait avoir lieu l'an prochain. L'armée qui disperse les manifestants, ça se passe au Liban, le pays en pleine catastrophe économique. Nouvelle manifestation hier soir. Reportage de notre envoyé spécial permanent à Beyrouth. Nous serons aussi dans les Vosges. Des pièges mortels tendus aux vététistes. Et puis le Futuroscope rouvre ce matin. 3000 personnes attendues pour inaugurer la toute nouvelle attraction du parc avec 3 mois de retard.
Nos invités ce matin à 7h50 avec Patricia Martin, David Lebars, le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Et à 8h20, notre invité, le psychanalyste Roland Gori. Il publie « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, l'étrange défaite de nos croyances » aux éditions « Les liens qui libèrent », un essai écrit avant la pandémie, puis réactualisé. Il explique que l'effondrement d'une certaine idée du progrès est bien là. Les collapsologues sont déjà dépassés. Vous pourrez interroger Roland Gori en appelant dès maintenant le 01 45 24 7000.
France Inter. Une lettre de cadrage, de recadrage plutôt, publiée tard hier soir, censée calmer la colère des policiers après une semaine de fronde. Christophe Castaner veut reprendre la main, alors que certains syndicats policiers en appellent désormais directement à Emmanuel Macron. Le ministre de l'Intérieur a reconnu une erreur, des annonces précipitées lundi dernier. Emmanuel Leclerc, il leur promet d'avancer très vite sur plusieurs de leurs demandes.
Avec cette lettre envoyée à chacun des responsables syndicaux de la police, on espérait hier soir place Beauvau que la fronde s'estompe, que les erreurs du début de semaine permettront au final d'avancer très rapidement sur des techniques d'interpellation moins dangereuses et surtout sur la généralisation et la systématisation de l'usage des caméras piétons. C'est le meilleur moyen, on le sait, confié hier après-midi le patron du syndicat des commissaires, David Lebars, d'en finir avec les dérives racistes de certains agents et l'occasion de protéger l'immobilier. L'immense majorité des policiers qui interviennent au quotidien sur le terrain face aux provocations verbales et la violence de certaines attaques. Avoir des preuves irréfutables. Les mots utilisés cette fois, les engagements du ministre sont bien ceux réclamés ces deux derniers jours par des syndicats de policiers furieux d'avoir été court-circuités face à la pression de l'Élysée. Des syndicats qui attendent maintenant de rencontrer le président de la République, d'obtenir dimanche soir lors de son intervention télévisée un soutien cette fois sans faille, à défaut d'excuses public.
Et avant que le chef de l'État ne prenne la parole demain soir, des manifestations antiracistes dans plusieurs villes de France. Aujourd'hui, Nantes, Lyon, Marseille, Bordeaux et bien sûr Paris, à l'appel du comité Adama Traoré. Des milliers de personnes attendues place de la République. La préfecture de police n'a pas officiellement interdit la manifestation malgré l'état d'urgence sanitaire, mais elle ordonne la fermeture de tous les commerces sur le parcours par crainte d'incidents.
Emmanuel, le procès de la catastrophe de Brétigny-sur-Orge devrait se tenir en 2021.
Un procès pour établir les responsabilités dans le déraillement d'un train Paris-Limoges dans cette gare de l'Essonne. C'était en 2013. 7 morts, plusieurs dizaines de blessés. Et après 7 ans d'instruction, le parquet d'Evry renvoie devant le tribunal correctionnel la SNCF et un cheminot. Maxime Debs.
Ce cheminot de 24 ans, à l'époque, était à la tête d'une brigade chargée de l'inspection des voies au moment du déraillement du train, il y a 7 ans. C'est lui qui avait réalisé la dernière vérification, 8 jours avant la catastrophe. Le 12 juillet 2013, l'intercité Paris-Limoges était sorti de la voie en gare de Brétigny, quand une éclisse, sorte de grosse agrafe qui maintient 2 rails entre eux, avait tourné, provoquant l'accident. Une catastrophe totalement imprévisible, a toujours dit la SNCF. Au cours de l'enquête, toute faute du conducteur ou acte de malveillance a d'ailleurs été écarté, mais les défauts de maintenance, un système de surveillance insuffisant et des manquements dans l'organisation des ressources humaines ont toutefois été pointés. Pour les familles des victimes qui réclamaient ce procès depuis des années, ce renvoi en correctionnel pour homicide et blessures involontaires doit permettre de mettre des visages sur la catastrophe. L'affaire pourrait être jugée dans le courant de l'année prochaine.
Maxime Debs, c'est confirmé, la France va lever dès lundi les restrictions de circulation à ses frontières intérieures européennes, sauf avec l'Espagne et le Royaume-Uni. Par réciprocité, indique le gouvernement, les personnes arrivant de ces deux pays seront invitées à observer une quatorzaine pour la réouverture des frontières avec les pays hors de l'espace Schengen. Il faudra attendre le 1er juillet. Cela se fera en fonction de la situation sanitaire de chaque pays. Au Liban, la crise sanitaire et ses conséquences sont venues aggraver encore la situation économique. Nouvelle manifestation hier soir contre le manque de réaction des pouvoirs publics face au naufrage économique. C'est ce que dénoncent les manifestants. La monnaie nationale s'effondre. Les promesses des autorités d'injecter des dollars sur le marché pour enrayer la chute pourraient ne pas suffire. Hier soir, à Beyrouth, Aurélien Colli, l'armée a dispersé les manifestants.
Poubelles en feu, vitrines cassées, gaz lacrymogène. Nouvelle soirée de tension dans le centre-ville de Beyrouth, où des groupes très mobiles ont affronté jusque tard dans la nuit les forces de l'ordre. Le dollar s'envole, la livre libanaise s'enfonce, il n'y a pas de travail, pas de quoi manger. La seule solution, c'est ce que vous voyez, justifie Brahim, le visage dissimulé derrière un foulard. En 8 mois, la livre libanaise a perdu 70% de sa valeur. L'inflation explose, un Libanais sur deux est passé sous le seuil de pauvreté et les partis confessionnels qui se partagent le pouvoir sont totalement discrédités. Notre argent a été volé, moi je veux un vrai État et je m'attends à ce que les pauvres se révoltent très bientôt et qu'ils se démarquent enfin de leurs appartenances politiques, explique un peu plus loin Marwan. Lui se réjouit de voir dans la rue des Libanais de la communauté chiite, habituellement tenus par le Hezbollah pro-iranien ou le mouvement Amal. On est dans la rue pour que le peuple soit entendu, on se maintenant de toutes les manifestations parce que la situation ne fait qu'empirer, assure Hassan, qui vient justement de la banlieue sud, le fief du Hezbollah. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Le Brésil, désormais le deuxième pays le plus touché par l'épidémie de Covid-19, que ce soit en nombre de morts 42 000 ou de contaminations 828 000 personnes infectées selon le dernier bilan des autorités sanitaires.
Cette question dans les Vosges, Emmanuel, qui en veut aux vététistes?
De véritables pièges sur les sentiers du massif qui mettent en danger leur vie, des actes de malveillance de plus en plus nombreux, en particulier Luc Dreosto dans la vallée de Munster.
Théo pédale tous les week-ends dans les Vosges avec ses copains du club de Sainte-Croix en plaine et il tombe de plus en plus souvent sur des pièges qui visent les vététistes.
Ça nous arrive de tomber sur des rondins en travers. J'ai déjà vu des personnes qui sont tombées sur des fils de barbelés tendus à travers le chemin. Ça fait très peur parce que ça peut tuer quelqu'un, clairement. Quand je roule, je pense tout le temps un peu à ce fil de barbelés tendu en fait. C'est juste notre passion, on roule pour s'amuser et de voir ça, c'est très dommage.
Dans le massif du Hollandsbourg, des vététistes ont même retrouvé un pieu planté à la réception d'un seau. Alors le sénateur du territoire de Belfort, Cédric Perrin, lui-même féru de VTT, a alerté la ministre des Sports sur cette problématique.
Pendant le confinement, je ne sais pas s'il y a eu des vocations qui se sont développées, mais il y a beaucoup de gens qui ont redécouvert la nature, que ce soit des marcheurs, des VTTistes, il y a du trail, enfin, il y a plein d'activités aujourd'hui. Il y a toujours eu des conflits d'utilisateurs entre propriétaires terriens, propriétaires forestiers, parfois des chasseurs. On doit pouvoir les régler évidemment bien différemment. En mettant des pièges, les conséquences peuvent être dramatiques pour ceux qui se font avoir, mais être aussi importantes pour ceux qui seraient condamnés pour ce genre de fait.
Cédric Perrin souhaite promouvoir le dialogue entre usagers de la montagne, mais il aimerait aussi que les auteurs de ces actes de malveillance puissent être identifiés et sanctionnés.
Et puis les visiteurs de retour au Futuroscope. Le parc rouvre aujourd'hui l'occasion d'inaugurer la dernière année de ses 40 attractions. Objectif mars, le lancement était prévu mi-mars, mais il avait été stoppé net par l'épidémie. Rodolphe Bouin est le président du directeur du Futuroscope.
Objectif Mars, c'est effectivement la nouveauté de l'année. C'est un très gros investissement, le plus gros investissement que le Futuroscope n'ait jamais fait, 20 millions d'euros. C'est une succession d'expériences qui fait que vous faites des tests pour savoir si vous êtes capable d'aller dans l'espace et à la conquête d'Objectif Mars. C'est un alliage assez intéressant de sensations et puis d'un certain nombre d'expériences avec des effets. C'est notre marque de fabrique. Vous avez raison de dire qu'il y avait beaucoup de frustration en mars puisque nous devions inaugurer cette attraction et la proposer à nos visiteurs. Et puis malheureusement, deux jours avant cette date-là, nous avons été obligés de fermer. Et on sera forcément une réponse post-crise. Ben, on sait qu'en général, après une crise, les gens partent moins loin, moins longtemps. Nous, on a fait les choses sérieusement. On est assez confiant dans notre protocole sanitaire et très confiant également sur la qualité de l'expérience qu'on va proposer. On aura des jauges restreintes. Puis on a également dématérialisé 6 files d'attente pour le confort de nos visiteurs. Non, on sent les équipes très confiantes, très enthousiastes et on a été ravis de se retrouver après cette longue parenthèse.
Le président du directeur du Futuroscope, Rodolphe Bouin, le parc qui n'ouvre que le week-end jusqu'au 27 juin et à partir de cette date, il ouvrira tous les jours.
C'était le journal d'Emmanuel Grabet. Le temps aujourd'hui.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Jean-Michel Kolinski de Météo France est avec nous. Jean-Michel, à nouveau des orages aujourd'hui.
Ah, tout à fait Pierre, tant sur les régions du nord-ouest que sur celles d'une bonne moitié est du pays, avec entre les deux un axe tout de même un peu plus calme allant du sud-ouest à la Haute-Normandie à la frontière belge, avec cet après-midi des températures de 24 à 26 degrés sur le bassin parisien et le nord, 22 à 24 sur le centre et dans le sud-ouest, dans l'air plus frais de la façade ouest vers 18 degrés sur la Bretagne, la Basse-Normandie et les Charentes. Des orages vont se développer avec une fréquence plus marquée en journée. Et puis dans la partie est du pays, l'air chaud et instable qui remonte de Méditerranée avec une moyenne de 25 degrés cet après-midi de Bastia à Marseille et de Lyon à Strasbourg va donner des orages puissants accompagnés de fortes précipitations, notamment sur la Corse et en PACA. Ils seront tout de même moins forts dans le quart nord-est.